Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertille Bourdon, Monsieur Hélène Lefrançois, Margot Leridon, Rosalie Suc, réalisée par Anna Holweg et mise en onde ce matin par Déborah Dagobert. Alors que les incendies en Amazonie ont été au cœur du dernier G7 de Biarritz, provoquant même une crise diplomatique inédite entre la France et le Brésil, nous allons nous intéresser à nos forêts. Pour commencer, nous allons regarder ce qu'il y a derrière le phénomène de déforestation. Quand les cultures envahissent la forêt, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Il y a deux jours, en raison de l'ampleur des incendies, nous avons demandé de déclarer l'état d'urgence dans le département afin que les moyens mis à la disposition du gouvernement national puissent être utilisés pour les incendies.
Cette culture du feu, elle avait disparu depuis quelques années, mais elle est revenue. Parce que quand Bolsonaro s'est porté candidat, il a dit qu'il rendrait cette zone productive et rentable en la mettant à disposition des producteurs.
Il se pourrait que les ONG aient déclenché les incendies parce qu'elles perdent de l'argent. Pour quelle raison ? Pour jeter le trouble au Brésil.
Bien sûr que c'est pas bien ce qu'on fait. On sait bien qu'on est en train de déforester et d'endommager l'environnement. Mais malheureusement, on n'a pas d'aide. Alors la seule solution, ce sont les incendies.
Alors que le président français avait mis les incendies en Amazonie au centre de l'arène diplomatique lors du dernier G7, appelant le monde à protéger le poumon du monde, les pays de la région viennent d'y consacrer un sommet d'urgence dans la ville de Laetitia en Colombie. Mais problème, celui qui avait été au cœur de la tourmente diplomatique, Jair Bolsonaro, n'a pas pu ou souhaité s'y rendre, invoquant des raisons médicales. C'est d'autant plus regrettable que la situation y est jugée particulièrement préoccupante, comme l'ont révélé les images satellites de l'Institut National de Recherche Spatiale, qui évoque un taux de déforestation en hausse de 64%. Et que par ailleurs, le Brésil abrite 60% des 5,5 millions de kilomètres carrés. Alors que peut-on attendre de ce sommet ? Peut-on obtenir des avancées ? Et d'ailleurs, quels sont les efforts concédés en la matière ? Avec quels résultats à la clé ? Pour bien comprendre le phénomène de déforestation, il convient de se pencher particulièrement sur la question de l'agriculture, qui serait à l'origine d'environ 80% des départs de feu. Alors qui met le feu à la forêt ? Et pourquoi ? Et comment les en empêcher ? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord, Maya Leroy, bonjour.
Bonjour,
merci
bonjour,
beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice de l'unité de formation et de recherche gestion de l'environnement à AgroParisTech. Vous étiez d'ailleurs en Amazonie il y a encore quelques semaines, en août dernier.
Tout à fait, oui.
Bonjour Frédéric Amiel.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, un spécialiste de l'impact de la chaîne globale des produits agricoles tropicaux sur la déforestation. Et ça tombe bien parce qu'on va s'intéresser en particulier à l'agrobusiness qui est en partie, évidemment, derrière tout ce qu'on voit depuis quelques semaines. Mais d'abord, je l'évoquais dans mon introduction, il y a 6 pays d'Amérique latine qui se sont donné rendez-vous vendredi dernier. L'image était assez forte puisqu'on a vu un président colombien, Iván Duque, en compagnie de son homologue bolivien, Evo Morales, d'autres représentants des pays de la région. Il y avait également une délégation d'Indiens. Enfin bref, la photo était particulièrement frappante. Un texte est sorti avec un certain nombre de propositions. Ça y est, tout est réglé, Frédéric Amiel. Il n'y a plus besoin de s'inquiéter pour la forêt amazonienne ?
Bon, bien évidemment, non, tout n'est pas réglé. D'abord, ces initiatives, elles sont pas nouvelles. C'est pas la première fois que les pays qui se partagent le bassin de la forêt amazonienne se réunissent et font des déclarations ensemble. Et puis, il faut bien entendre, évidemment, le président brésilien.
Dans ce format-là, c'est assez rare.
C'est rare, c'est pas tous les ans, mais c'est quand même régulier. On en parlait avant le début de l'émission avec Maya Leroy. La première grande initiative, elle date de 78 quand même, donc c'est pas tout nouveau. Et puis, faut pas négliger le poids du Brésil, même si le président n'était pas présent. Il a quand même bien insisté pour que la déclaration finale rappelle la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles. Et ça, c'est un verrou pour beaucoup d'initiatives internationales en faveur de la protection de la forêt.
On y reviendra évidemment sur cette question de souveraineté qui est absolument centrale. Maya Leroy, est-ce que cette initiative, c'est une bonne initiative ou est-ce que en réalité, c'est juste pour précisément faire une belle photo comme je le disais, mais derrière, il n'y a rien ?
On peut toujours être content des initiatives et des réunions. On peut, de toute façon, vu l'urgence, que les États se rassemblent pour essayer de se mettre d'accord sur quelque chose, c'est toujours une bonne chose. Mmh. Le problème, c'est que dans le contexte actuel et vu le traité, comment on va pas être dans un traité de plus? C'est-à-dire, quelles sont vraiment les sommes qui vont être engagées? Quelles sont les compétences qu'il va y avoir derrière? Est-ce que, avec des gouvernements qui, en plus, pour certains, veulent vraiment pas aller vers de la protection, on va tout d'un coup avoir dans un système intergouvernemental un accord là-dessus? Il faut quand même pas oublier que, par contre, il y a eu énormément de dynamiques et d'initiatives prises par des ONG. Il y a un réseau d'ONG panamazoniennes qui s'appelle RAISG, qui a été lancé par l'ONG ISA, Institut Socio-Ambiental du Brasil, qui avait permis justement de connecter un certain nombre de gens pour faire un réseau de suivi géo-référencé socio-ambiental. Ça s'est lancé. Ce groupe, à l'époque, a été sollicité, a pas répondu présent aux initiatives. Est-ce que tout d'un coup, on aurait un changement? Est-ce que tout d'un coup, il y aurait quelque chose qui se passe? J'ai un peu des doutes. Il faut beaucoup de compétences et beaucoup de coordination pour que ça marche. Et dans
oui, surtout qu'on n'est pas certain d'avoir effectivement un engagement très fort du président brésilien.
Clairement.
Officiellement, il n'est pas là pour des raisons médicales. Est-ce que c'est la vraie raison ou est-ce qu'il ne voulait pas, semble-t-il, enfin, à votre avis en tout cas, Frédéric Amiel, y aller, y participer? Comment vous interprétez les choses, vous?
C'est difficile à dire. On ne peut pas répondre sur la réalité de son excuse. En revanche, ce qu'on sait, c'est que s'il y avait été, il y aurait probablement été entraînant des pieds. Et c'est pas nouveau. Et c'est pas propre à Monsieur Bolsonaro. C'est-à-dire, la réticence du Brésil à traiter la question amazonienne comme une question internationale, c'est une réalité depuis au moins 2 ou 3 décennies. Le Brésil a refusé les initiatives avec l'Europe de protection et d'aide à la protection de ses forêts qu'ont accepté des pays africains ou des pays asiatiques. Le Brésil, à Copenhague, a bien fait savoir que personne ne devrait venir mettre son nez dans la façon dont il gère la forêt amazonienne. Donc c'est pas nouveau que le Brésil rechigne à traiter cette question comme une question internationale.
En tout cas, il était présent par vidéoconférence et visiblement, il s'est fait entendre, et notamment sur la question de la souveraineté, puisqu'on a intégré à l'intérieur du texte Maya Leroy, cette question, c'est un des 16 points qui a été mis en avant, le fait que les pays de la région sont souverains sur leur territoire. Point.
Absolument.
Et ça, c'est lui qui l'a obtenu.
Absolument. Je pense que de son point de vue, ce qui est important, c'est que sa souveraineté a été réaffirmée à travers ce traité. Il a quand même envoyé son ministre des Affaires étrangères, qui est très pro-ruraliste, enfin donc très pro-développement agricole. Effectivement, si cette réunion devait être une réunion qui rend l'internationalisation de l'Amazonie, alors il ne peut y avoir qu'une réticence de sa part. Si au contraire, elle réaffirme le fait que des États américains d'Amazonie réaffirment leur souveraineté pour gérer entre eux le problème, et ben à ce moment-là, ça lui convient et c'est le point central qu'il réaffirme à la suite de ce traité.
Et par ailleurs, il a dit qu'il le redirait à l'Assemblée générale des Nations Unies là dans quelques jours, que même s'il devait y aller en fauteuil roulant, il irait en fauteuil roulant, mais qu'il en parlerait à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Absolument.
Frédéric Amiel, de quoi est-ce qu'il a peur, Bolsonaro? Pourquoi est-ce qu'il réaffirme sans cesse cette souveraineté sur l'Amazonie?
Bon, on peut dire qu'il a peur d'une forme d'ingérence. Le mot revient. On en a parlé pendant des années à propos des questions humanitaires. Maintenant, on en parle à propos des questions environnementales. La réalité, c'est que moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que l'élection de quelqu'un comme Bolsonaro, c'est aussi plus un symptôme qu'une cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le symptôme d'une crainte des Brésiliens de voir empiéter sur leur capacité de développement économique, de voir empiéter sur leur souveraineté. Il y a plein de raisons qui expliquent son arrivée au pouvoir, mais parmi celles-ci, il y a aussi cette pression qui est mise régulièrement sur le Brésil, où on leur explique qu'ils gèrent mal leurs espaces, etc. Et qui leur explique qu'ils gèrent mal leurs forêts? C'est des pays comme les nôtres, qui n'ont pas particulièrement bien géré leur environnement ou leur empreinte environnementale ces dernières années.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a une forme de maladresse dans la manière dont Emmanuel Macron en a appelé la communauté internationale? En gros, c'était une manière de dire « vous savez pas faire, laissez-nous faire ». Il y a un peu de ça aussi.
Emmanuel Macron, pas seulement Emmanuel Macron, mais oui, la France.
Enfin, sur cette séquence-là, en tout cas.
C'est clair, en tout cas, que depuis quelques années, la diplomatie française environnementale, elle est très active. Elle cherche à réactiver du multilatéralisme, c'est-à-dire un travail commun sur les questions environnementales, ce qui est intéressant. Mais elle le fait un peu à marche forcée, avec une forme d'arrogance qui peut déplaire aux pays qui sont détenteurs aujourd'hui de ces ressources naturelles.
Maya Leroy, est-ce que le Brésil a raison de craindre une forme d'internationalisation de l'Amazonie ? Est-ce qu'il y a eu des velléités en la matière ? Et donc des raisons.
Il y a eu des velléités historiques. La dictature a justement mis en avant le fait qu'il fallait garder l'Amazonie pour eux, pour coloniser l'Amazonie dans les années 70 et réaffirmer leur autorité. Donc c'est sûr qu'on est sur un sujet hyper sensible et que donc effectivement toute velléité d'internationaliser l'Amazonie.
Mais il y en a eu.
Oui, il y en a eu. Disons qu'il y a eu des volontés extérieures. Il y a eu des financements américains. Il y a eu toute la période où en fait le Brésil a voulu structurer son État. Il a toujours dit finalement il y a des puissances étrangères qui voudraient nous capter nos ressources. Mmh. Moi, ce que je crois, c'est que si vous voulez, Bolsonaro, il arrive avec l'agrobusiness. Cet agrobusiness et ce monde là a l'intention de repartir dans une croissance effrénée et de réutiliser ces espaces comme des espaces frontières pour développer l'agriculture, mais réactiver la minéralisation, etc., etc. Donc c'est ça ce projet. Le projet brésilien avant était autre, avec d'autres compétences et des compétences qui ont su faire beaucoup de choses pour quand même le contrôle de l'Amazonie, sa protection. On ne dit pas assez l'intelligence de ce peuple, des intellectuels, des organisations qui ont su, y compris alimenter l'État, pour être en compétence, pour faire du suivi satellite et pour réellement baisser à un moment la déforestation. Donc, si vous voulez, on est sur un autre cadre politique qui, lui, veut relancer, comme à la grande époque, le déploiement à tout crin de tout ce qui pourrait être les infrastructures, la production agricole, la minéralisation, pour tirer un maximum de ressources de ce territoire.
On va revenir, évidemment, sur cette question-là, mais je voudrais qu'on reste encore un instant sur ce qu'il s'est dit, Frédéric Amiel, lors de ce grand sommet et de ce pacte de Laetitia. L'un des points qui a été évoqué, c'est la possibilité de réhabiliter l'OCTA. L'OCTA, c'est l'organisation du traité de coopération amazonienne qui avait été créée en 1978, en juillet 78, avec 8 pays, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Guyana, le Pérou, le Suriname et le Venezuela. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord dans quel contexte on crée à ce moment-là, il y a maintenant 40 ans, cette organisation, et pourquoi est-ce que finalement elle n'est pas parvenue à organiser la coopération dans ce travail de protection des forêts ? Et est-ce que la question est, si ça n'a pas marché avant, on ne voit pas bien pourquoi ça marcherait aujourd'hui. Mais vous nous rappelez un peu les choses ?
Peut-être que Maya Leroy connaît mieux le contexte de cette convention en particulier, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire en général, c'est que ces initiatives, effectivement, il y a eu cette initiative internationale. Il y a eu, Maya Leroy le rappelait, au début des années 2000, sous la présidence Lula, des efforts colossaux pour la protection de l'Amazonie brésilienne. À quoi ils se heurtent en réalité ? J'y pensais dans le sujet au début de l'émission, quand la personne dit « on n'a pas d'aide », c'est comment on valorise les actions positives, que ce soit des traités internationaux, des tentatives de protéger multilatéralement ou des initiatives nationales. Aujourd'hui, on est dans un système qui valorise une agriculture agressive, extensive, qui se fait aux dépens des ressources naturelles. Aujourd'hui, si vous pratiquez ce type d'agriculture, vous êtes favorisé sur les marchés internationaux. Si vous tentez de valoriser le caractère environnemental ou durable de votre production, l'Organisation mondiale du commerce vous tape sur les doigts en disant « ça n'est pas une façon légitime de valoriser vos produits, tout le monde est à égalité, peu importe la façon dont vous produisez, on ne peut pas ». Si l'Europe aujourd'hui décidait d'arrêter d'importer des produits issus de la déforestation, elle se ferait taper sur les doigts par l'Organisation mondiale du commerce qui dirait « c'est pas un critère valable ». Donc tant qu'on ne valorise pas les pratiques les plus durables, tant qu'on ne valorise pas, y compris économiquement, les initiatives en faveur de la protection de la forêt, elles sont destinées à échouer, ou en tout cas, elles peineront à porter leurs fruits tel qu'on espérait qu'elles le fassent.
En tout cas, concernant cette organisation, il se trouve que à l'époque, le Brésil avait accepté d'accueillir le siège de l'organisation à Brasilia, et qu'à partir du moment où le siège s'est retrouvé à Brasilia, il ne s'est plus passé grand-chose. Si on revient, et je poursuis un tout petit peu avec vous, Frédéric Amiel, parce que j'ai entendu sur ce point Maya Leroy, mais sur la question de la responsabilité de Bolsonaro en particulier. Je donnais tout à l'heure un certain nombre de chiffres, une augmentation de la déforestation de l'ordre de 67%, quand on regarde juste pour juillet juillet 2019, on nous dit que la déforestation, elle a été 4 fois supérieure à ce qu'elle était l'année dernière au même moment. La responsabilité de Bolsonaro dans ces incendies. Rappelons qu'il est arrivé au pouvoir au mois de
juin. Bien sûr. Alors, dans les incendies, on peut, sans trop se tromper, dire que la responsabilité de Bolsonaro est assez directe. C'est-à-dire que c'est lui qui envoie des signaux depuis janvier 2019 pour bien faire comprendre aux personnes qui souhaitent pratiquer ce type de défrichage et de déforestation qu'ils ne seront pas poursuivis et qu'ils peuvent le faire. Mais en réalité...
C'est quoi ces signaux?
Ah bah c'est d'abord son programme électoral, c'est-à-dire que en gros le programme de Jair Bolsonaro, c'est de réactiver ce qu'on appelait la colonisation agraire à l'époque au Brésil dans les années 90, c'est-à-dire d'estimer que le bassin forestier est une zone vierge, donc bien entendu qu'on ne prend pas en compte les habitants actuels, et que c'est une zone à coloniser de manière agricole, c'est-à-dire dans laquelle on doit développer des nouvelles plantations agricoles ou des nouvelles zones d'élevage. Et les autres signaux, c'est remercier le directeur de l'IBAMA aujourd'hui, donc de l'Institut de protection environnementale, c'est supprimer la compétence du fonds de gestion des terres indigènes pour donner cette compétence au ministère de l'Agriculture, ce qui est un signal quand même assez fort. C'est beaucoup d'outils de gouvernance, en fait, qui sont mis au service aujourd'hui du lobby des ruralistes. Et ça, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça ne fait que continuer le processus enclenché sous la présidence de Dilma Rousseff, qui a commencé par un abaissement de la législation, une réforme du code forestier en 2012. Et après avoir abaissé la législation, on abaisse aujourd'hui les moyens de mise en œuvre de cette législation en supprimant les compétences des agences de l'État.
On va refaire ce travail de perspective historique. On reviendra avec l'arrivée de Lula, l'arrivée de Dilma Rousseff, voir comment les choses se sont enchaînées depuis une vingtaine d'années. Maya Leroy, une chose à ajouter sur cette question de la responsabilité de Bolsonaro entre sa campagne, les signaux envoyés, où on transfère les compétences, où on retire les financements?
Oui, absolument. C'est un détricotage absolu d'un travail monumental qui a quand même été fait pendant des années. Donc ça veut dire que aussi un des instruments comme le Fonds d'Amazonie qui permettait d'alimenter énormément d'actions, de projets, de programmes, d'ONG qui faisaient le travail sur le terrain, lui aussi n'a pas été re-signé. Donc,
qui était financé par l'État.
Voilà, par l'État, mais aussi par la Norvège qui a dit finalement on s'en va, les Allemands on s'en va. C'est 30 et 35 millions des deux côtés qui disparaissent. Des fonds qui sont quand même des fonds déterminants pour le soutien à toutes les activités des gens qui sont sur le terrain. C'est aussi une diminution drastique, enfin une rediscussion drastique des approches d'évaluation environnementale, ce qu'ils appellent les licences, c'est-à-dire en gros comment faire de l'infrastructure du projet, y compris du projet agricole, sans faire d'évaluation environnementale du système. C'est l'ICM Bio qui gérait les aires protégées, qui est fragilisé. C'est le ministère de l'Environnement. On avait quand même des représentants dans chaque État fédéré. Ces représentants disparaissent. Donc, c'est un détricotage systématique. Donc, dans un pays qui a eu de telles compétences, qui a encore ces compétences, si on détricote systématiquement non seulement les structures d'État qui aidaient à la régulation et à la police environnementale, mais aussi qui proposaient des alternatives pour finalement retourner sur le projet ruraliste historique, et ben effectivement, on perd aussi toute cette compétence. Et je reviendrai juste un dernier point sur le traité. Ce qu'il faut comprendre, moi j'aime qu'on s'ancre sur les enjeux de réalité, qu'est-ce qui fait pression. On n'est pas sur les mêmes systèmes de pression dans les autres pays qui sont quand même des pays andins, qui sont tournés autrement. L'Amazonie, il y a des problèmes de drogue, il y a d'autres problèmes. On n'est pas du tout sur les dynamiques de front aussi violentes, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas non plus tout à fait dans les mêmes problématiques à travailler. Donc je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir
La déforestation ne concerne pas que le Brésil. Quand
absolument,
on regarde les taux de déforestation sur la Colombie, je ne le dis pas au hasard, puisque c'est là où ça se passait. Ivan Duque était évidemment en figure de proue dans tout ça. C'est des niveaux de déforestation qui sont tout à fait comparables à ce qu'on trouve au Brésil.
Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'historique aussi de la prise en charge de ces questions et des multiples pressions qui s'exercent, on n'est pas non plus tout à fait sur les mêmes choses. Il va falloir du temps.
Frédéric Amiel, on peut faire faire un tout petit peu d'histoire, parce que l'Amazonie, il y a, je sais pas, par exemple, je vais prendre au hasard, il y a 50 ans, il n'y avait pas un phénomène de déforestation comme on le voit aujourd'hui. Alors quand est-ce que ça commence? Qu'est-ce qui se passe? Il faut revenir sur l'histoire du front pionnier, etc. Pour mettre un peu les choses en tête.
Alors si, ça commence déjà, alors de manière plus timide, moins impressionnante, dès le début du XXe siècle, et notamment une des premières grandes cultures qui va venir empiéter sur la forêt amazonienne, c'est la culture du caoutchouc. On va planter de l'EVA à la place des forêts primaires, déjà pour alimenter l'industrie européenne en caoutchouc. Et ensuite, effectivement, tout ça s'accélère, mais avec, à l'époque, dans les années 60, je crois que le code forestier brésilien, il doit dater de 76, si je ne me trompe pas, enfin la première version, avant 2012, on a un code forestier qui est relativement protecteur, qui instaure ces fameuses zones de réserve et qui dit, dans le bassin amazonien, alors d'une part, première chose, c'est ce que je parlais de la colonisation agraire, la terre n'appartient à personne et quiconque va délimiter un espace devient propriétaire de cet espace. Donc on est vraiment dans une zone comme la colonisation au 19e siècle des États-Unis. Et d'autre part, par contre, ces propriétaires sont obligés de préserver 80% de la surface en forêt naturelle. Donc ça, c'est sans comparaison avec d'autres codes forestiers ailleurs sur la planète aujourd'hui.
Ça veut dire que c'était très protecteur?
La législation était protectrice, mais elle n'est pas mise en œuvre pendant une bonne trentaine d'années, jusqu'à la fin des années 90 et la présidence Lula. Lula s'engage, quand il arrive, à réduire la déforestation de 80%, et il parvient en 8 ans, en 2008, à faire baisser la déforestation de 80%, en mettant en place les outils dont on parlait tout à l'heure, en formant des agents, en donnant des moyens à la police, en poursuivant les infractions. Et donc, on n'a pas changé la règle, mais par contre, on fait respecter la règle.
On va y revenir, je m'y engage, sur ce moment et l'arrivée de Lula, et ce qui change à ce moment-là. Maya Leroy, on parle très souvent de la question du soja. Est-ce que, effectivement, la culture du soja va constituer une rupture dans le phénomène de déforestation au Brésil? Parce que, évidemment, ce qu'il y a derrière, c'est aussi la question de la responsabilité des autres États. Parce que le soja, il est exporté, nous en achetons, nous autres Européens, les Chinois, évidemment, en achètent énormément. Et donc, il y a aussi tout un questionnement à avoir sur les cycles commerciaux, sur la question de l'accélération des échanges commerciaux, de la mondialisation, etc. C'est aussi ça qu'il y a derrière. Donc là, cette responsabilité, la culture du soja dans l'accélération ou non, de la déforestation.
Alors, je pense que là, effectivement, il faut refaire une mise au point parce que avant le soja, il y a l'élevage. Le principal processus, en fait, de déforestation est tiré par l'élevage. C'est lui qui a augmenté de façon drastique la déforestation dans la zone. Et on a eu des pics absolument monumentaux. C'est suite au gros pic de 95. C'est 27 000 km², c'est 2,7 millions d'hectares en qui sont déforestés. Et donc là, on a effectivement le premier code de la réserve légale, c'est-à-dire on commence à dire il faut mettre des zones de protection dans les propriétés privées. Mais la dynamique donc de l'élevage continue. Et effectivement, c'est à partir du moment où donc les suivis satellitaires se font depuis 88, et c'est à un moment où on décide qu'effectivement il va falloir avoir une politique drastique, qu'on commence à réussir à agir, et on agit beaucoup sur les gros propriétaires éleveurs, donc les grosses parcelles qu'on voit facilement et qui permettent d'agir directement sur ces éleveurs. Donc le soja suit derrière, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soja, mais le soja, il y a quand même une chose qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il y a eu un moratoire soja en 2006 et que grâce quand même à une dynamique particulièrement puissante d'activation de beaucoup d'ONG d'environnement et de négociations avec les producteurs, on a réussi à décider que finalement le soja devait ne plus remplacer en tout cas la forêt dans les zones amazoniennes. Et on peut le vérifier parce qu'on peut d'un point de vue satellitaire le vérifier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soja en Amazonie.
Ouais, on va y revenir.
Mais justement, ça a très bien marché.
Sur 10 ans, visiblement, le résultat est là puisque Greenpeace nous dit en 2016 qu'on a à peu près 86% de baisse de déforestation à cause de la production de soja. Sauf que, évidemment, le diable est dans les détails. Frédéric Amiel, c'est que ce soja, on continue d'en produire, vous le disiez, mais autre part, dans le Cerrado, c'est-à-dire c'est la zone en gros qu'il y a autour de la forêt amazonienne, donc d'une certaine manière, on a déplacé le problème. Maya Leroy, Frédéric Amiel.
Oui, alors il y a deux choses. On a déplacé le problème, c'est clair. On a un autre grand biome qui est le Cerrado et qui effectivement est largement attaqué par le soja et pour lequel une question d'un moratoire soja ou quelque chose qui permettrait de faire tenir, on pourrait aller plus dans le détail de ça pour vous dire pourquoi les contextes sont pas les mêmes, parce que on n'est pas à 80% de réserves légales. Mais en tout cas, on a effectivement le soja qui va dans le Cerrado, mais on a quand même encore du soja dans les zones de pâturage d'Amazonie. On garde quand même, dans la même période où on baisse globalement le soja qui ne va pas déforester, on a quand même un soja qui s'installe sur les zones de pâturage et donc qui pousse aussi l'élevage à devoir augmenter sa productivité à l'hectare et à revoir aussi ses pratiques, parce que le système très extensif qu'elle fait est aussi pour partie remplacé. Si on continue pas à attaquer la forêt et qu'on contrôle quand même les zones de protection.
Frédéric Amiel.
Oui, alors cette histoire du soja aussi, ce qui est intéressant, et pour la relier aussi à nous et à l'Europe, c'est qu'elle est très liée au développement de la politique agricole commune en Europe. Et ça, c'est vraiment intéressant à comprendre. En 92, quand l'Europe est en train de discuter avec les États-Unis le fait qu'ils acceptent et qu'ils ne s'opposent pas à l'établissement d'une politique commune en Europe, en gros, je rentre pas dans les détails, mais les États-Unis disent d'accord, mais... Vous importez des protéines végétales de chez nous. C'est-à-dire que dans votre programme et votre planification, vous prévoyez pas trop de protéines et puis vous achetez notre soja. C'est un peu le deal qui est passé entre l'Union européenne et les États-Unis. Ça va faire rentrer massivement du soja au départ des États-Unis et du Canada. Et puis très vite, des pays comme le Brésil, mais aussi comme l'Argentine, vont s'engouffrer dans cette brèche. C'est-à-dire qu'on a un élevage aujourd'hui animal en Europe qui est dépendant des importations de protéines végétales et notamment de soja. Et du coup, ça crée une forme d'appel d'air qui va favoriser l'émergence de grandes cultures de soja au Brésil et en Argentine. Et tant qu'on revient pas là-dessus, le président Macron l'évoquait il y a deux semaines, c'est-à-dire si on réévoque pas la question de l'autonomie protéique de l'Europe aujourd'hui et de la France, on continuera à avoir cet appel d'air qui favorise le développement de ces grandes productions d'oléoprotéagineux dans les zones forestières.
Maya Leroy, on parle beaucoup de la responsabilité des grosses industries, de l'agro-business dans cette question de la déforestation. Mais est-ce que l'agriculture vivrière est aussi en partie responsable de ce qui se passe en Amazonie?
Évidemment, il y a aussi des petits qui contribuent à la déforestation. Quand, par exemple, on a réussi à faire baisser drastiquement l'élevage, la déforestation en contrôlant l'élevage et les gros producteurs, on est passé de 27 000 km² à 5 000 km², donc on a... Mais ce 5 000 km², on estime que c'est essentiellement les petits qui continuent, en fait, à rentrer dans la forêt, ouvrir un petit nombre d'hectares et puis assez rapidement, ça tient pas, les sols sont pas assez riches, etc. En plus, ils ont des petits veaux naisseurs, ils alimentent aussi la grande structure. Le naissage, c'est souvent aussi fait par les petits agriculteurs. Et donc, ils ont des liens. C'est ça qui n'est pas assez dit. C'est que les gros leur apportent aussi une sécurité à long terme, etc. Donc, il y a une bonne intelligence, on va dire, aussi entre les petits et les gros.
Forme de porosité
sur la filière,
entre
une porosité en tout cas certaine, qui fait que la filière, globalement, elle tient aussi parce qu'il y a ces petits qui avancent aussi sur les fronts de déforestation.
Frédéric Amiel, je tiens toujours mes engagements. Lula, donc, est élu fin 2002, il arrive au pouvoir début 2003. Que change l'arrivée au pouvoir et de l'ouverture de cette ère du PT, du Parti des Travailleurs, en matière de déforestation?
Du coup, le début de l'ère est plutôt favorable, comme je disais, c'est-à-dire que de 2000 à 2008, on a une baisse de la déforestation. Et puis ensuite, à partir de 2008 et l'arrivée au pouvoir de Dilma Rousseff, on a, je dirais, une capacité...
De quel ordre, pardon? Pour qu'on ait une idée, de quel ordre
De 80%. C'est-à-dire le taux de déforestation annuel baisse de 80%
donc
entre 2000 et 2008.
D'accord.
C'était l'engagement qui avait été pris en 2000 et il a été respecté. Et aujourd'hui, ça y est, on est complètement revenu en arrière. C'est-à-dire qu'on est revenu au taux de déforestation de l'ère pré-Lula au Brésil.
Comment il fait pour obtenir ce résultat?
Donc essentiellement, il dit « je vais appliquer les règles du code forestier ». Donc ceux qui ne respectent pas la réserve légale de 80% sont poursuivis, payent des amendes, parfois vont en prison. On envoie des agents sur le terrain pour surveiller la zone. Tout ça,
ça demande de l'argent.
Ça demande de l'argent, ça demande
donc
des
moyens. Donc il met de l'argent sur la table.
Alors, il met de l'argent sur la table, il met des moyens, mais surtout, je dirais, une des choses qui est importante et qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il médiatise son action. C'est-à-dire que quand les forces de police vont en hélicoptère au cœur de la forêt amazonienne, constater des défrichements illégaux, etc., tout ça, c'est diffusé à la télévision, etc. L'idée aussi de faire peur à ceux qui croient qu'ils pratiquent la déforestation en toute impunité au cœur de la forêt, en leur disant, on va venir vous chercher jusque là où vous êtes, au milieu de l'État du Pará, du Mato Grosso, et aussi bien caché que vous soyez au milieu de la forêt, vous échapperez pas aujourd'hui aux bras de la police. Et c'est vraiment cette dynamique, à un moment donné, qui va aussi provoquer cette réaction du Parti des Ruralistes, qui ensuite, en contre-feu, vont faire pression sur le gouvernement de Dilma Rousseff.
Oui, vous avez raison de parler des ruralistes. Alors, ce qu'on appelle les ruralistes, c'est effectivement tous ceux qui ont un intérêt avec l'agro-business et qui ont évidemment des relais politiques très forts dans la vie, dans le paysage politique brésilien. Mais précisément, Maya Leroy, si en réalité Lula peut faire tout ça, c'est qu'il n'a pas besoin du soutien politique à l'époque des ruralistes. C'est qu'il est tout à fait en capacité, politiquement, d'engager cette politique. Ce que ne seront peut-être pas, vers la fin, les autres. Quand je dis les autres, c'est Dilma Rousseff et ensuite Michel Temer.
Oui, tout à fait. Il y a une mobilisation, si vous voulez, d'une compétence, d'une alliance et un soutien populaire qui fait qu'effectivement, on est dans une dynamique avec une demande aussi internationale de régler le problème. Donc, il y a tout un tas de facteurs qui vont être très favorables, en fait, à ce déploiement de cette politique. Et il faut quand même savoir qu'aussi, on est dans une situation économique favorable. La Chine, quand même, consomme énormément de produits exportés du Brésil. Et donc, on ne peut quand même pas non plus cacher le fait qu'en même temps qu'il y a ce travail sur l'écologie, il y a aussi un développement intensif de l'exportation, de l'élevage, du soja,
on
etc.
On est en plein miracle brésilien.
Voilà, donc on a ça en même temps. Dans les outils quand même qui ont été faits, qui étaient aussi très intelligents, c'est qu'avec le suivi satellitaire, ils bloquent aussi potentiellement les crédits. Hein. C'est-à-dire, il y a des listes noires de ceux qui... Le crédit auprès de la Banque du Brésil et des crédits agricoles. Donc là aussi, en mettant en place le cadastre environnemental rural, le CAR, et en poussant les gens aussi à cadastrer petit à petit les zones parce que ils y ont intérêt. Donc c'est un ensemble en fait de mesures qui ont été mises en place et qui ont permis ça. Mmh. Et dans un contexte général évidemment où en plus l'économie allait bien quoi. Donc effectivement cette politique elle a pu être menée, mais ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas encore en attente tous ceux qui ne supportaient pas et qui n'acceptaient pas que ça continue.
C'est mais quand ils, même n'avaient, pas... ils n'avaient pas le poids qu'ils ont aujourd'hui.
Voilà, absolument.
Frédéric Amiel, 2012, réforme du code forestier. Qu'est-ce qui change ?
Alors voilà, ce code forestier, d'abord, il est porté donc, par ce fameux lobby des ruralistes. On n'arrête pas d'en parler. En gros, ce sont les grands propriétaires terriens qui font de l'élevage, qui font du soja, etc. Ça fait déjà bien 20 ans qu'ils essayent d'obtenir une réforme de ce code forestier de 76 qui est trop protecteur. Et ils profitent d'une conjonction et d'un rapport de force plus favorable sous la présidence de Dilma Rousseff, qu'il faudrait analyser plus en détail, pour faire voter au Parlement, malgré l'opposition de la présidente Rousseff, qu'il faut rappeler quand même, qui a, comme on appelait ça à l'époque, son veto. Elle a utilisé un veto présidentiel pour essayer de bloquer un certain nombre de réformes dans le code forestier. Mais malgré tout, ce qui passe, en gros, pour le dire rapidement, c'est une diminution de la réserve légale. C'est-à-dire, au lieu d'être obligé de préserver 80% d'une zone en Amazonie, en forêt naturelle, on est réduit à 50 ou 60%. Et puis un changement de gouvernance encore, et notamment le fait que les recours contre la déforestation illégale, c'est-à-dire la capacité à dénoncer des atteintes à l'environnement qui se faisaient directement auprès du ministère, auprès de l'État fédéral, passent au niveau des gouverneurs de province, qui est dans le Brésil, qui est un État fédéral. Et donc forcément, ces gouvernements locaux sont plus sujets à la pression des propriétaires terriens locaux que l'État fédéral à Brasilia. Et ça a été considéré notamment par les ONG comme un véritable affaiblissement des outils de gouvernance de la forêt amazonienne.
Et les choses vont s'aggraver à l'arrivée de Michel Temer. C'est-à-dire que ce que vous décriviez tout à l'heure sur Bolsonaro, sur les questions de baisse de financement, sur les questions d'assèchement, ça commence sous Michel Temer en réalité, avant l'arrivée de Bolsonaro.
Effectivement, Michel Temer, qui est en partie d'ailleurs porté par ce... par le bloc des ruralistes. Une des premières mesures qu'il va prendre concernant l'Amazonie, c'est la baisse des amendes en cas de déforestation illégale. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment un signal très fort d'impunité. D'impunité, pas vraiment, parce qu'il reste des amendes, mais elles sont fortement diminuées. Et c'est un signal fort pour l'encouragement de la reprise de cette colonisation agraire de l'Amazonie.
Oui, ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Au fond, Bolsonaro ne porte pas l'entière responsabilité de tout ça, mais c'est au fond, d'une certaine manière, le symptôme de quelque chose d'autre. Maya Leroy, quittons un tout petit peu le Brésil, montons en généralité. Il y a une dizaine d'années, les Nations Unies avaient lancé un grand programme de lutte contre la déforestation. C'est ce qu'on appelle RED, mécanisme de réduction des émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts. C'est une initiative qui visait à mettre en place des systèmes de compensation pour les pays qui s'engagent précisément à limiter cette déforestation. Vous nous rappelez d'abord, on va en faire la critique, mais d'abord en quelques mots, de quoi il s'agit. C'est quoi le mécanisme RED? Il y aura ensuite RED+, mais c'est quoi le principe? Puis on va regarder son efficacité ou sa non-efficacité, Maya Leroy.
Oui, le principe de la RED est assez simple. Il dit que finalement, à partir du moment où on déforeste pas, ou en tout cas où on limite la déforestation en cours, la contrepartie de ça peut rapporter de l'argent. Et c'est ce différentiel, en fait, qui va faire que finalement, pour lié à des coûts d'opportunité qui ferait que finalement, en payant l'équivalent du coût d'opportunité des personnes qui sinon déforesteraient, en leur donnant cet argent, ou en proposant des alternatives pour qu'ils puissent du coup arrêter de déforester, on arriverait à freiner le système.
Ça, c'est la philosophie générale.
Donc ça, c'est la philosophie générale. Alors cette philosophie générale, il y a eu toute une grande discussion entre est-ce que cette philosophie générale fait que ce portage se fait à l'échelle des États ou est-ce qu'elle se fait à des échelles beaucoup plus locales. Donc il y a eu sur le marché aussi volontaire des projets RED beaucoup plus locaux, beaucoup de petites expérimentations pour essayer de le faire marcher. Et puis il y a eu aussi l'idée que c'était à l'échelle de l'État en général qu'on gérait cette compensation RED. Et d'une certaine façon, le fonds amazonien, il vient de cette philosophie de la RED. Alors, à l'échelle beaucoup plus locale, il y a eu tout, c'est-à-dire qu'il y a eu du grand n'importe quoi, des gens qui ont dit « Regardez, ça allait beaucoup plus vite » et ont demandé des financements très vite sur la base d'une baisse qui était totalement hypothétique. Et puis, il y a eu aussi des expériences très pratiques, avec y compris des populations indigènes. C'est le cas des Sourouis, par exemple, qui, eux, ont décidé effectivement de augmenter leur capacité d'action pour protéger leurs terres, parce que les terres indigènes sont très efficaces, et ça se voit d'un point de vue satellitaire pour le frein de la déforestation. On dit on a besoin de plus de moyens, pourquoi on n'utiliserait pas la RED? Et donc, ils se sont activement, volontairement engagés avec d'autres. Donc, on a des structurations aussi réelles qui se mettent en place avec une volonté réelle d'y arriver. Mais au bout d'un moment, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pour plein de raisons. Ça marche pas parce que l'argent n'est pas suffisant, parce que le niveau d'organisation pour faire que ces groupes travaillent ensemble, arrivent à un résultat, produisent des alternatives, ne subissent pas la pression externe dans des zones de total front pionnier, sont tout un tas de facteurs sociaux, organisationnels et techniques excessivement difficiles à mettre en place. Et donc, en fait, très vite, les processus s'épuisent, l'argent n'arrive pas assez vite, la coordination qu'on a réussi à mettre en œuvre au sein d'une terre indigène trouve des faiblesses et finalement, les gens repartent sur des contrats, finalement, avec les fazendeiros. Bref, on a un problème vraiment de mise en œuvre et on a finalement que des petits résultats tout à fait limités des projets RED dans beaucoup de situations. Là, je parlais du Brésil, c'est vrai à Madagascar, c'est vrai.
On va parler tout à l'heure de Madagascar. Frédéric Amiel, votre regard justement sur ces mécanismes RED, RED+, peut-être d'ailleurs appliqué effectivement au Brésil, parce que même si effectivement il y a un certain nombre de limites, il y a quand même, semble-t-il, eu un certain nombre de résultats. Vous parliez tout à l'heure de partenariat, il y a eu un partenariat très intéressant entre le Brésil et la Norvège, par exemple, qui pendant des années a versé des millions. Alors, je ne sais plus exactement, je crois qu'il y avait un engagement sur 5 ou 6 ans qui était de l'ordre d'un milliard, mais je ne suis pas du tout sûr des chiffres. Mais ce qu'on disait, c'est que ça fonctionnait. Pourquoi ça n'a plus fonctionné à un moment, Frédéric Amiel?
Bah, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que je dirais l'avantage de Red Plus, c'est à un moment donné de s'adresser à une vraie problématique qui est identifiée et de pas contourner cette question, c'est-à-dire un pays ou une région à laquelle on demande de préserver ses forêts, effectivement, c'est une perte en termes de coût d'opportunité, c'est une perte économique potentielle en termes de développement économique. Donc comment on la compense, qui la compense en fonction de ce qu'on appelle dans les négociations internationales la responsabilité commune mais différenciée des différents pays dans le changement climatique, dans la préservation de l'environnement. Donc ça, c'est intéressant. Après, on se heurte à beaucoup de problèmes techniques, de beaucoup de problèmes de gouvernance. Et le problème, c'est aussi qu'à un moment donné, vous avez un besoin de retour sur investissement. C'est-à-dire que les gens, enfin un certain nombre d'organismes qui se sont lancés dans Red Plus, à un moment donné, avaient besoin que Red Plus génère effectivement de l'argent pour que ça fonctionne. Et il y a plusieurs problèmes, c'est que l'argent n'arrive pas forcément en quantité suffisante. On ne sait pas toujours très bien à qui le distribuer. Ou en tout cas, il y a des conflits sur qui doit bénéficier de l'argent. Et puis, il y a un problème aussi très technique.
Qui est chargé de la répartition de cet argent ?
Eh bien, justement, j'allais y venir. C'est qu'en fait, une grande partie de ce premier argent a été employé à payer des consultants, des cabinets d'audit, des experts qui étaient chargés de réfléchir à la mise en place de systèmes de gouvernance qui permettraient de faire fonctionner le système RED+. Et en fait, on a dépensé beaucoup d'argent pour ça, sans toujours avoir des résultats probants. Je sais pas si...
Mais Leroy...
Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que, si vous voulez, on a fait un RED qui est sur la preuve qu'on va diminuer une déforestation. Donc, on doit mettre en place une baseline qui est très technique, qui doit expliquer où ça va, comment ça va et quel différentiel on va créer. Donc là, il faut de la compétence pour ça. Donc effectivement, il faut des spécialistes, beaucoup de bureaux d'études, mais y compris au Brésil, ailleurs, se sont déployés pour aider à ce format. Maintenant, la mise en place de l'organisation, elle dépend des capacités à s'organiser des groupes. Quand je reviens à ces questions locales, il y a des groupes qui ont su s'organiser. Les Sorui, ils ont y compris leurs terres indigènes, ils ont changé la place des villages pour se mettre en protection de leurs terres pour éviter qu'il y ait des intrusions dans leurs terres. Et ben de même, ils se sont organisés pour dire que les fonds qui arriveraient seraient contrôlés par eux et c'est eux qui redistribueraient. Mais cette maturité organisationnelle, etc., sur le temps en plus, avec les savoirs techniques qu'il faut pour pouvoir répondre aux injonctions de la demande pour pouvoir rendre des comptes sur le crédit carbone est telle que ça demande énormément de travail et qu'on a plein de situations où on n'a pas ce niveau organisationnel. Et puis je voudrais quand même rajouter quelque chose sur la RED qui pose quand même un problème, à mon avis, préoccupant, c'est que la RED, en gros, on dit nous, on ne sait pas faire, on ne sait pas changer notre système, on va le faire par d'autres, il faut que là-bas, dans la forêt, quelqu'un sache finalement arrêter de déforester. Il y a un transfert de la responsabilité, de nos responsabilités, hein, qui mangeons du soja, qui mangeons du bœuf, qui mangeons, etc., de dire finalement, c'est en mettant un petit peu d'argent, puis eux, ils ont intérêt à pas déforester. Donc il y a un transfert aussi de la responsabilité.
Ce transfert de responsabilité, est-ce que on n'a pas essayé de régler ce problème-là en inventant un autre outil, mais vous allez faire un petit effort de pédagogie, ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux, est-ce que c'est pas précisément ça ? C'est-à-dire, en gros, vous vous occupez de faire émerger de nouveaux puits de carbone et vous, on vous paye pour ça. Donc là, la responsabilité, d'une certaine manière, elle n'est plus transférée comme vous le décriviez tout à l'heure, puisqu'on incite, j'allais dire, librement, alors contre argent comptant évidemment, des pays, des entités à être particulièrement vertueux dans le domaine de la captation de CO2 et puis on les paye pour ça. Est-ce que c'est bien ça d'abord dont on parle quand on parle de paiement pour services environnementaux ?
Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, RED+, c'est une forme de paiement pour services environnementaux. C'est-à-dire qu'on finance un service environnemental et en fait, on finance le groupe qui va s'assurer du bon fonctionnement de ses services environnementaux ou de sa préservation. Effectivement, la limite, c'est ce transfert de responsabilité. C'est aussi la question, on appelle ça d'additionnalité, c'est-à-dire en quoi cette préservation de forêt, elle vient en plus de ce qui se serait passé si on n'avait pas mis en place un mécanisme comme RED+. Et ça, on a beaucoup de mal à le démontrer. Et souvent, il s'agit uniquement de systèmes de compensation. C'est-à-dire qu'on est dans un jeu à somme nulle. On augmente les émissions d'un côté et en échange, on va payer pour la protection d'une forêt à l'autre bout du monde qui va capter du carbone. Et finalement, le résultat de cette politique, il est neutre et c'est pas une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Or, ce à quoi on a à faire face aujourd'hui comme défi pour l'humanité, c'est bien à la baisse et pas au maintien du niveau actuel des émissions de gaz à effet de serre.
On était avec vous Frédéric Amiel et vous Maya Leroy dans cette nouvelle série consacrée aux forêts, quand les cultures envahissent la forêt. On parle de l'Amazonie, mais dans un instant on va prendre la direction de Madagascar.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisqu'effectivement, les images satellitaires ont alerté sur les incendies qui ravagent l'Amazonie, mais aussi fixé cette attention sur Madagascar.
Il y a beaucoup de baobabs qui meurent. Il va disparaître. Avant, il y en avait partout. Quand j'étais enfant, il y avait de la forêt partout et peu d'habitants. Mais ensuite, beaucoup de gens sont venus et ont commencé à couper la forêt.
On plante des patates douces et du manioc. On les plante comme ça. Chaque année, avant de semer, il faut mettre le feu au champ. C'est triste que la forêt soit détruite, mais on n'a pas le choix. Il faut bien manger.
À Madagascar, où les incendies sont nombreux, 44% des forêts naturelles y ont disparu sur ces 60 dernières années, avec une nette accélération du rythme de déforestation depuis 2005. Bonjour Laura Brimont.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, chercheuse à l'IDRI, l'Institut de Développement Durable et des Relations Internationales. Vous aviez notamment écrit un article avec d'ailleurs Maya Leroy, intitulé, je cite, le mécanisme RED+ et les projets pilotes à Madagascar, un idéal incitatif à la réalité des dispositifs de gestion. Alors, précisément, on va pouvoir regarder justement du côté de Madagascar comment fonctionnent ou pas ces mécanismes RED+. D'abord, posons un tout petit peu le décor, Laura Brimont. Quels sont aujourd'hui à Madagascar, les racines de la déforestation et en particulier la question de l'agriculture qui nous intéresse particulièrement ce matin. Est-ce qu'en gros, on peut dire, en réduisant un petit peu les choses, que si on coupe les forêts à Madagascar, c'est pour y cultiver la terre ?
Tout à fait. Par contre, on n'y cultive pas les mêmes choses qu'en Amazonie et ce n'est pas le même type d'agriculture. À Madagascar, l'agriculture dont il est question, c'est beaucoup de l'agriculture de subsistance, c'est-à-dire que c'est des paysans qui cultivent pour assurer leur gagne-pain et se nourrir chaque jour, comme on voyait dans les reportages juste avant. Donc c'est une agriculture qui est assez différente. C'est un contexte aussi qui est très différent du contexte brésilien, notamment, parce que c'est un pays extrêmement pauvre. Hein, les trois quarts de la population malgache vivent en dessous du seuil de pauvreté. Du coup, il y a aussi une croissance démographique très importante. La population double tous les 25 ans. Donc, tous ces gens, il faut les nourrir. Et enfin, c'est un pays, l'État malgache, qui a beaucoup plus de mal par rapport à l'État brésilien à faire respecter la loi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lois pour respecter la forêt. Mais le problème, c'est de la faire respecter.
Laura Brimont, on a expliqué avec Maya Leroy et Frédéric Amiel ce qu'étaient les mécanismes RED+. On en a mis en place du côté de Madagascar. Quel bilan général on peut en tirer ?
Alors, ça n'a pas changé énormément les choses, je dirais. Nous, de ce qu'on avait vu dans la mise en place de ces mécanismes, c'est qu'en gros, ils reprenaient un petit peu les méthodes de conservation qui étaient préexistantes. À Madagascar, on agit beaucoup en créant des aires protégées et puis aussi en essayant de déléguer certaines parcelles de forêt, de déléguer la gestion de ces parcelles à la population locale. Ça, c'était préexistant à la RED. Ça a continué avec la RED. La RED a juste ajouté en fait de nouvelles activités, notamment de mesurer le carbone contenu dans la forêt, de faire ces scénarios dont parlait Maya Leroy tout à l'heure. Mais en soi, sur le terrain, ça n'a pas changé grand-chose.
Regardons précisément sur le terrain. Il y a un site auquel vous êtes intéressé. J'espère que je prononce correctement. C'est Bimpingaratsi. On est là au sud du pays. C'est un site qui avait été classé nouvelle aire protégée précisément par un arrêté qui était sorti en février 2018. Est-ce que vous pouvez nous présenter, parce que c'est toujours intéressant de regarder très concrètement, localement, sur le terrain, ce qui se passe, les problématiques spécifiques de ce site, la manière dont on a essayé de mettre en place justement une politique de protection de la forêt et les résultats qu'on a obtenus. Ce site-là en particulier.
Alors, sur ce site, ce projet, c'était un projet qui était mis en œuvre par une ONG, le WWF, en partenariat avec Good Planet, puisqu'il faut aussi rappeler qu'à Madagascar, les gestions des aires protégées sont beaucoup faites par les ONG de conservation, pas par l'État directement. Donc ça a été mis en œuvre par une ONG. Au début, c'était financé par une entreprise. Et ils ont créé une aire protégée avec des transferts de gestion, de mise en responsabilité des communautés locales. Et puis tout un ensemble d'activités alternatives, puisque l'idée, en fait, c'est essayer que les gens arrêtent de pratiquer l'agriculture sur abattis bruyés. On en a déjà un petit peu parlé. Le principe de cette agriculture, c'est qu'on coupe la forêt, on la brûle. Ça permet d'enrichir le sol et ensuite de faire une culture.
Ce qu'on appelle cette le tavi en malgache.
Le tavi, ouais, tout à fait. Cette agriculture, elle est très ancienne, elle est soutenable tant qu'il n'y a pas trop de croissance démographique. Mmh. Quand il y a trop de croissance démographique, en fait, le problème, c'est que les parcelles deviennent insuffisantes. On fait des rotations, c'est-à-dire qu'on revient sur la même parcelle beaucoup plus vite, alors que normalement, il faut la laisser pendant 15-20 ans pour permettre à la forêt de reprendre. Et en fait, le fait de revenir beaucoup trop vite, la forêt disparaît complètement et on doit s'attaquer à de la forêt primaire. Donc tout l'enjeu de ces activités alternatives mises en place par les ONG, c'est essayer de trouver pour les paysans soit de nouvelles manières de faire de l'agriculture, ou alors des activités alternatives.
Il y a un moment quand la pression foncière et la pression démographique est trop forte, ça devient compliqué. Sur la question des transferts de compétences, Laura Brimon, avant même l'émergence de ces mécanismes Red Plus, à Madagascar, l'État malgache avait introduit dans sa législation ce principe de transfert de gestion des ressources naturelles aux communautés locales en 1996. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il le fait? Qu'est-ce que ça change? Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, effectivement, les communautés locales sont réellement impliquées dans les politiques de préservation des forêts, ou est-ce qu'en réalité, c'est une fausse implication et c'est soit l'État qui décide, soit en gros le chaos?
Pourquoi il le fait? Ça a été beaucoup d'influence aussi de la part des bailleurs de fonds et des instituts internationaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Madagascar, la forêt est patrimoniale pour une grande majorité, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'État. Les gens n'ont pas de droits légaux sur les parcelles de forêt. L'idée, c'était, si on transfère des droits aux gens, ils vont mieux gérer la ressource forestière qu'ils ne faisaient jusqu'à présent. Donc, l'idée sur le papier est très, très belle. Je pense qu'il y a eu des cas où ça a pu marcher. Le gros problème quand même de cette logique, c'est que les gens, en fait, souvent n'ont pas de choix, n'ont pas d'alternative à continuer les pratiques agricoles qui consistent à brûler la forêt, parce qu'il faut bien manger, parce que, comme je vous disais, croissance démographique, parce que changer l'agriculture pour un certain nombre de contraintes techniques, en fait, c'est compliqué, pour plein de raisons, parce qu'il n'y a pas non plus d'emploi qui est créé en ville, qui permettrait de drainer cette croissance démographique ailleurs. Donc, en fait, même si on donne des droits, on voit que sans un accompagnement, sans un processus de développement, en fait, concomitant, c'est très difficile d'arrêter, de stopper ce processus de déforestation.
Vous restez avec nous, Laura Brimon. J'ai encore une ou deux questions à vous poser, mais je voudrais faire réagir nos invités, Frédéric Amiel et Maya Leroy. Maya Leroy?
Oui, je pense qu'on est vraiment là, dans le cas à Madagascar, d'exemplarité, de cas raides qui montrent les limites. Ces fonds, finalement, qu'on essaie de trouver pour l'environnement, hein. Est-ce qu'on les trouve pour aider à protéger ce qu'on protège déjà? C'est-à-dire, en gros, les aires protégées, malgaches, il n'y avait pas beaucoup d'argent, leur aide, ça permet. Ou à protéger un système comme, finalement, des terres indigènes en Amazonie et ces Amérindiens qui essaient de se structurer. Est-ce que par ces fonds, ils vont complémenter? Donc, est-ce que la RED et d'autres fonds servent à ça? Est-ce que, sinon, on doit être sur des réductions de ce qui détruit l'agriculture, etc.? Est-ce qu'on va mettre des paiements pour services environnementaux éventuellement plus lourds? Est-ce qu'on va payer à des grandes échelles le coût d'opportunité pour que soudain les agriculteurs arrêtent de faire ça et obliger les grands industriels, etc., à ne prendre finalement le soja que dans des zones qui ne seraient pas déforestées? Et est-ce que qui va payer? Est-ce que les industriels vont payer? Bon, donc est-ce que ces fonds, c'est pour réduire? Est-ce que ces instruments, c'est pour réduire? Ou est-ce que aussi, c'est pour compenser ou restaurer? Parce qu'on a quand même ouvert plein de zones qui sont plus ou moins dégradées, qu'on pourrait réactiver, qu'on pourrait remettre en plantation. Il y a des espaces pour faire le soja sur des zones dégradées. Il y a des espaces pour faire du cacao sur des zones dégradées. Mais oui, mais ça demande plus de technique, ça, c'est plus cher, etc. Donc pourquoi on mobilise les fonds? Et leur aide, c'est un des instruments parmi d'autres.
Frédéric Amiel.
Oui, je crois que au fond, le problème, c'est qu'on peut pas séparer ces questions environnementales, ces questions de déforestation, des questions de développement, des questions économiques. C'est tout le sens de la grande antienne du développement durable depuis le sommet de Rio en 92. Mais il faut le prendre au sens propre du terme. Trop souvent, on a tendance à dire le développement durable, c'est quelque chose qui est à la fois bon économiquement, environnementalement et socialement. Non, en réalité, la question, c'est comment on trouve un équilibre. aurait une complémentarité entre ces aspects-là, quitte à parfois renoncer à des opportunités économiques au bénéfice de l'environnement. Ou au bénéfice des questions sociales. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui dans les grands programmes qu'on met en place. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui les pays où on a de la destruction environnementale sont aussi des pays qui sont des pays pauvres, où les gens vivent mal, où les gens sont en mal lotis, qui sont des pays qui ont une place souvent ingrate dans le grand marché international qui est censé tous nous tirer vers le haut.
Laura Brimond, au début de l'année, il y a un nouveau président qui est arrivé au pouvoir à Madagascar, Andry Rajoelina, qui est l'ancien maire d'Antananarivo. Et l'une de ses premières annonces, Laura Brimond, c'est un grand programme, un très vaste programme de reboisement, 40 000 à 80 000 hectares de reboisement chaque année. Que vous inspire la décision, Laura Brimond, est-ce qu'elle vous semble révéler de nouvelles intentions de la part du chef de l'État, ou est-ce que là aussi c'est d'abord et avant tout de la communication, Laura Brimond?
Il y a bien sûr un aspect de communication, notamment vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux, hein, parce que Madagascar est très très dépendant de l'aide publique internationale. C'est quelque chose qui est attendu de la part de l'État malgache de s'engager dans l'environnement. Après, il faut voir sur le long terme ce que ces engagements vont donner. Et ce qu'il faut juste aussi souligner, c'est que reboiser, ça peut répondre à certains problèmes. Par exemple, de faire face aux besoins, aux bois de feu, qui est aussi une des causes de déforestation. Mais c'est pas en 20 ans qu'on va recréer, en fait, aussi une forêt primaire qui a mis des centaines, voire des milliers d'années à se créer.
Mais si l'engagement est tenu, faisons une hypothèse. Si l'engagement est tenu, 40 000 à 60 000 hectares, allez, coupons la poire en deux, 60 000 hectares de reboisement chaque année, est-ce que c'est de nature à inverser la tendance et à endiguer la déforestation à Madagascar, ou c'est beaucoup trop peu?
Oui, ça permettrait déjà de l'endiguer. Il y a déjà eu des engagements de ce type. Hein. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est très difficile à mettre en œuvre pour exactement les mêmes raisons que je citais tout à l'heure, qui est que l'État malgache a beaucoup de mal à mettre en œuvre ses décisions et les engagements politiques qu'il prend.
Maya Leroy, sur le reboisement dans l'Amazonie, c'est envisageable ou pas?
C'est toujours envisageable et effectivement il y a toutes des zones entières qui pourraient être reboisées, des répisylves, etc., des bords de rivière et des zones. La vraie question, c'est que le reboisement ne compense pas systématiquement la déforestation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en déforestation nette, oui, les Chinois disent en gros, on ne déforeste pas parce qu'on replante autant qu'on déboise, mais on déboise pas la même chose. Une forêt primaire qui a mis 300 ou 400 ans avec des arbres majeurs et une très forte biodiversité, on ne la remplacera pas. Donc si on ne conserve pas, c'est pas toute chose étant égale par ailleurs. Si on ne conserve pas, le reboisement ne sera pas suffisant.
Il y a forêt et forêt. Frédéric Amiel.
Oui,
et en guise de conclusion, on arrive au terme de l'émission, je vous en prie.
Je dirais qu'il faut aussi, peut-être en conclusion, laisser sa place à la nature. C'est effectivement un problème de préserver les espaces de l'expansion agricole. Ensuite, la forêt, d'une certaine manière, elle va bien souvent repousser toute seule. Il y a encore une fois une forme d'arrogance de l'humanité à dire « la nature a besoin de nous pour être boisée ». En réalité, elle a besoin qu'on lui laisse l'espace pour se reboiser, plus qu'on vienne planter des graines tous les 2 mètres dans des espaces que nous-mêmes, on a dégradés auparavant.
Minha grandeza, minha grandeza, canta eu, minha grandeza, minha grandeza, canta eu, meu irmão, minha mulher, que sonhos o sonho dos mais perigosos. Meu irmão, minha mulher, me dê a mão. Eu não sei de muito não, eu não trago a solução. Minha grandeza, minha grandeza, cantável, minha grandeza.
Merci infiniment à nos invités, Laura Brimond qui était à l'instant par téléphone avec nous, et un grand merci à nos deux invités ici sur place qui ont accepté d'ouvrir cette semaine consacrée aux forêts, Maya Leroy et Frédéric Amiel. Frédéric Amiel, chercheur à l'IDRI, et vous, Maya Leroy, directrice de l'unité de formation et de recherche gestion de l'environnement à AgroParisTech. Merci infiniment, on se retrouve demain pour une nouvelle émission consacrée aux forêts.